RCF.
Le 18-19 sur RCF.
Bonsoir, bienvenue dans le 18-19 en Champagne. Les ombres du nombre. Un livre peint l'histoire d'un père peu connu. C'est le véritable récit de Bénédicte d'Artigalongue sur une histoire familiale qui a débuté après le décès de son père. Elle nous explique pourquoi et comment elle a accepté de révéler une partie de son histoire et comment nous, on peut s'y reconnaître. Vous saurez tout dans ce 18-19 en Champagne. En ces temps de couvre-feu et de confinement, il est possible pour les personnes en recherche d'emploi ou pour les salariés qui veulent se former ou se reconvertir et d'être aidés tout en restant chez soi. Explication dans la Minute Emploi à 18h40. 18h30, je serai rejoint par Gérald de Gaillet pour le journal local. La musique sera un duo franco-britannique avec la voix puissante de la Marnaise Émilie Jancard. Et nous écouterons également Clara Luciani. Nous terminons ce magazine avec un point météo. Mais avant cela, voici la chronique La Révolution et eux avec Pascal Pupinck et Anne-Marie.
Le 18-19 sur RCF.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Pascal.
Anne-Marie, nous sommes toujours avec Adélaïde et le père de Cissé qui ont jeté une semence nouvelle en France. Mais tu sais quelle semence? Alors, où en sommes-nous exactement Anne-Marie?
Eh bien, il est donc reconnu que Mademoiselle de Cissé n'est aucunement coupable de participation dans le complot de la machine infernale. Mais son silence obstiné laisse ignorer le nom du mystérieux personnage qui lui a recommandé Carbon. Elle a aussi nié que ce fût Limoëlan, mais elle a avoué connaître ce dernier, neveu du père de Clorivière.
Mais alors, on va rechercher le citoyen Clorivière? Adélaïde est toujours sous la surveillance de la police?
Eh oui! Et ça devient difficile pour tous les deux dans cette ambiance de suspicion et d'espionnage.
Oui, ça devait être aussi très difficile pour la petite société naissante.
Oui, et cependant, dans la tempête, elle grandit.
Et alors Anne-Marie, il nous faut revenir un peu en arrière, je pense, aujourd'hui.
Oui, en effet, Pascal. Le 19 janvier 1801, le jour même où Adélaïde était arrêtée et écrouée, le pape Pie VII faisait à Rome le meilleur accueil aux deux abbés Astier et Belet, délégués du père de Clorivière, qui écrivait. Le Saint-Père déclara approuver comme très utile à l'Église le projet qui lui a été présenté, tel qu'il l'avait trouvé dans nos écrits, et qu'il permettait à tout le monde de l'embrasser. Que son approbation n'est pas publique et solennelle, mais qu'il permettrait de la donner dans des temps plus calmes. Il recommanda la circonspection, mais enjoignit de ne point se faire une loi du secret qu'on avait cru devoir imposer jusqu'alors.
Mais alors, que fait alors le père de Clorivière?
Eh bien, il part. Il part se réfugier près de Rouen, chez Madame Saint-Placide, qui, après la dispersion de sa communauté, est devenue membre de la Société des Filles du Cœur de Marie.
Ah oui, elle aussi. Adélaïde va l'y rejoindre?
Non, mais pas pour longtemps.
Que se passe-t-il pendant ce temps-là en France?
Eh bien, le concordat est signé à Paris, le 15 juillet 1801, et ratifié à Rome le 15 août suivant. Les diocèses sont reconstitués et pourvus de nouveaux évêques.
Alors que devient le frère d'Adélaïde, te souviens-tu, Monseigneur Jérôme de Cissé, dont le siège est à Bordeaux?
Eh bien oui, mais il est transféré. Il est transféré à Aix-en-Provence. Et de nouveau, il invite Adélaïde à sortir de cette vie difficile de Paris. C'est déjà lui qui avait incité sa sœur à aller prendre les eaux à Dinan. Maintenant, il l'invite à venir résider auprès de lui.
Alors Adélaïde en parle avec le père de Clorivière et décide de partir à Aix-en-Provence chez son frère.
Eh bien oui, le père de Clorivière écrit aux filles du cœur de Marie que leur supérieur...
On se souvient du voyage de Bretagne à Paris où elle était accompagnée.
Là, elle part seule, par voie d'eau, en descendant le Rhône en bateau. Elle arrive aux environs du 5 juillet 1802, au moment de l'entrée de son frère dans la ville épiscopale.
Oh là, ça doit la changer.
Eh oui, car elle partage sa vie entre réception, visite, visite d'affaires, dans une ambiance non pas précisément mondaine, mais moins recueillie qu'à Paris.
Qui va être proche alors des filles du cœur de Marie à Paris, en Bretagne, pendant ce temps?
Eh bien, c'est ce que nous partagerons la semaine prochaine. Au revoir, Pascal.
Au revoir, Anne-Marie.
Le 18-19 sur RCF.
Eh bien, nous avons un nouveau roman, voilà, que vous pouvez très vite vous procurer. En plus, c'est un roman d'une auteure chalonnaise. Il s'agit donc de Bénédicte d'Artigallon. J'espère que j'ai bien prononcé, mais elle me rectifiera parce qu'elle est avec moi au téléphone. Son livre, son récit, ce sont donc Les ombres du nombre. Le titre peut être curieux, mais après lecture, vous comprenez pourquoi. Ce titre, c'est donc aux éditions Nombre 7, donc à vous procurer au plus vite dans vos librairies ou directement en commande les sites en ligne. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
Alors donc, nouveau roman, je dis une chalonnaise parce que je vous vis à Chalon, mais on comprend très très vite et on entend légèrement votre petit accent. Vous venez du côté de la Gironde, du côté de Bordeaux.
Oui, je suis installée à Chalon en Champagne depuis 2012, mais j'y travaille depuis 1999, donc je suis chalonnaise d'adoption, mais bordelaise d'origine, effectivement.
Ouais, ça vous manque pas, la Gironde?
Ah, mais j'y retourne, je n'ai pas du tout coupé les ponts, j'ai encore quelques personnes de ma famille, des amis, et puis j'y vais souvent en vacances, plusieurs fois par an en fait. J'ai jamais coupé avec cette partie de moi qui est la région bordelaise.
Eh bien, en tout cas, c'est chouette. Donc, quand on vous écoute, on a l'impression que la Gironde, c'est le département juste à côté. Hein. Mais vous êtes là surtout donc, pour ce récit, Les ombres du nombre. Vous avez narré votre histoire de votre point de vue, et puis c'est parti donc de votre papa qui vous a quitté, et de découvrir, et puis apparemment, vous avez découvert un petit peu ce qu'on appelle les secrets de famille, et tout doucement, vous avez dévoilé un petit peu tout ça, vous racontez un petit peu ce récit à travers un petit peu, comme un journal de bord. Souvent, on a l'impression qu'on est avec vous en train d'écrire des messages. C'est presque immersif dans l'écriture de ce récit. Mais ma première question, c'est surtout pourquoi l'écrire? Et surtout, c'est votre vie. Hein. Pourquoi avoir accepté d'écrire pour le grand public votre vie?
Alors tout d'abord, j'ai écrit ce livre donc à la mort de mon père. J'ai commencé à l'écrire à la mort de mon père. Il se trouvait que c'était quelqu'un dont je ne parlais jamais. Les personnes de mon entourage savaient évidemment que biologiquement j'avais eu un père, mais je n'en parlais pas, donc les gens se racontaient leur propre histoire. Et en fait, quand il est mort un peu brusquement en 2019, je me suis retrouvée mal à l'aise par rapport à cette mort, parce que je ne pouvais pas en parler. Vu que je n'avais pas parlé de lui vivant, il était difficile tout d'un coup de parler de lui mort. Et comme c'était quelqu'un qui était marginal, quelqu'un qui avait des troubles psychologiques, certains, bien que non diagnostiqués, il a toujours été mis de côté dans ma famille en permanence. C'est quelqu'un qui a été balayé, chassé jusqu'à la limite en fait, hein, jusqu'à l'effacement. Et donc quand il est mort, moi je me suis retrouvée face à ce mur du tabou familial. Je ne pouvais pas parler de lui et je pensais que en tant qu'être humain, il méritait mieux que ça, de mourir et puis d'être totalement oublié. Parce que les gens qui meurent et dont on ne parle pas, ils meurent beaucoup plus vite que ceux dont on parle encore longtemps après leur mort.
Vous commencez à aborder un petit point que j'ai un petit peu ressenti à travers ce récit. Vous avez justement essayé de le rendre vivant, votre papa?
Oui, alors c'est très paradoxal comme histoire. J'ai vécu pendant plus de 20 ans dans la même maison que lui. Enfin, il y a eu deux maisons, mais peu importe. Je vivais avec cet homme, mais je ne le côtoyais pas, je ne le fréquentais pas, et il ne m'a pas éduquée, ne m'a pas élevée. Donc j'explique dans le livre pourquoi on peut vivre comme ça avec un père qu'on ne côtoie pas, un père avec lequel on ne parle pas. Il y avait vraiment un mur très complexe. Voilà, donc moi j'ai voulu retrouver un petit peu son humanité. Quand il était vivant, je ne lui parlais pas, mais une fois qu'il est mort, je me suis dit que je lui devais bien ça, de retracer son profil, le faire revivre à travers les souvenirs que j'avais et les quelques objets que j'avais de lui aussi.
Oui, c'est ça, parce qu'on voit bien l'enfant que vous étiez vis-à-vis de lui, et tous les questionnements qui étaient au fond de vous, parce que vous étiez curieuse de savoir qui c'était cet homme à côté de vous, mais que jamais vous avez véritablement à lui adresser la parole, lui poser des questions, essayer de le connaître. Et ça n'arrive que maintenant. Ce que vous avez au fond de vous apparaît dans ce récit-là.
En réalité, peut-être que j'ai donné l'impression d'avoir été curieuse quand j'étais enfant de sa personnalité. C'est vrai, quand je le voyais, on se parlait un petit peu, mais en réalité, ce qu'il faut bien dire, c'est que je n'avais pas le droit de le voir. Je n'avais pas le droit d'aller le voir, je n'avais pas le droit d'aller lui parler. Il était vraiment exclu, en étant inclus dans la maison, dans la structure familiale. Donc à l'époque, je vivais beaucoup aussi avec ces contraintes-là, les contraintes de l'interdit. Donc il y avait une partie de moi, petite fille ou jeune fille, qui voulait un petit peu lui parler, mais l'interdit était tellement fort qu'il a pris le dessus et au final, je l'ai un petit peu renié, comme on m'a demandé de le faire.
C'est ce qu'on ressent à travers ce récit. C'est pour ça, véritablement, je vous invite à le lire, parce que c'est vraiment immersif. Hein. On a presque un petit peu du mal à poursuivre la lecture, parce qu'on se dit, on est quand même chez quelqu'un, là, dans la tête de quelqu'un, et c'est peut-être pas bien. Il y a presque ce côté voyeuriste qu'on n'aime pas trop, qui met mal à l'aise.
Peut-être. Ouais. Bon, l'ayant écrit et ne l'ayant lu que d'un point de vue un petit peu de correction ou autre, pour cet aspect-là, je ne sais pas, mais c'est assumé. En réalité, un être humain est complexe, donc... Là, je livre une partie de ma vie, mais en même temps, c'est beaucoup du passé aussi que je livre. Et j'ai réglé mes comptes depuis bien longtemps avec cette histoire. Donc, pour moi, c'est pas aussi gênant que ça peut l'être pour le lecteur. Moi aussi, je sais que beaucoup d'aspects de ma personnalité et de ma vie ne sont pas présentés dans ce livre. Donc, je n'ai pas l'impression de m'être tant livré que ça. J'ai ouvert une porte sur un aspect de ma biographie, mais il y a beaucoup d'autres portes qui restent fermées, si vous voulez. Donc je n'ai pas l'impression de m'amputer d'une partie de ma vie, et ça ne me gêne pas que les lecteurs lisent ça, puisque sinon, si ça m'avait beaucoup gêné, je n'aurais pas publié, je n'aurais pas cherché à être lu.
Restez avec nous dans le 18-19 régional avec Bénédicte Darty-Dalong, notre invitée de ce soir pour son nouveau roman « Les ombres du nombre ». On la retrouve juste après ce formidable duo avec une chalonnaise, Émilie Jancard, en duo avec le britannique Jess Bailey, et ce joli titre Surrender. On se retrouve juste après avec Bénédicte. C'était le titre Surrender avec le duo, avec la Marnaise Émilie Jancard et le Britannique Jess Bailey. Vous êtes dans le 18-19 régional et on poursuit. Dans quelques instants, à 18h30, ce sera le journal local, mais on poursuit avec Bénédicte Darty-Lalong et son nouveau roman, Les Ombres du Nombre, qui lui donne une certaine réalité, hein, encore plus forte. Donc on découvre un petit peu Bordeaux. Il y a des moments donnés, on est dans la Marne. On est à Chalon, on est à Reims, on est vraiment chez nous, on reconnaît cet aspect de réalité sous mes pieds, puisqu'on est dans la Marne, rend la chose puissante, forte. C'est pour ça que je parle vraiment d'immersif, vertigineux, mais souvent agréable et rassurant.
Oui, c'est vrai que par rapport à... Bon, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. par rapport à mon identité, il y a une partie de moi qui évidemment est restée dans, à Bordeaux, en Gironde, comme je vous disais, j'y retourne souvent, mais il y a toute ma vie professionnelle, familiale qui se passe depuis très longtemps dans la Marne, et j'appartiens un peu aux deux terres, et c'est pour ça que je suis attachée aux deux terres de la même manière. Donc j'ai voulu aussi dans le livre montrer que je me déplaçais d'une zone à l'autre, en balayant un peu cette longue distance des trajets en voiture, et je suis contente si ça peut ancrer un petit peu le récit dans la réalité locale, ça me fait plaisir.
Je rappelle Les Ombres du Nombre, on va rentrer un petit peu plus sur cette histoire du papa, mais curieusement, pour connaître l'histoire du papa, c'est beaucoup la maman qu'on lit, beaucoup l'histoire de votre maman, souvent elle me donne même une impression d'avoir été une maman absente.
Oui. Tout à fait.
Presque, vous n'êtes pas contente à des moments donnés. Hein.
Oui, j'ai des rapports très difficiles avec ma mère et j'ai essayé de les montrer dès le début du récit avec beaucoup de dissonance, une communication qui est très difficile et qui vient du fait de l'interdit du début de ma vie, c'est-à-dire que je n'ai pas été élevée par mes parents, en fait. J'ai été élevée par mes grands-parents, donc j'explique les raisons dans le livre, mais le lien en fait entre ma mère et moi ne s'est jamais vraiment officiellement, clairement, durablement installé. C'est toujours heurté. Alors j'ai voulu l'expliquer dans le livre, et il y a des moments où je parle d'elle, je pense en termes durs.
Mais il y a des moments très doux, hein. Il y a des moments très doux avec elle.
Hein. Il y a des moments de réconciliation, parce que je veux que ça soit un livre positif, même s'il peut déranger sur certains points. Je tiens à ce que ça porte de l'espoir et beaucoup d'humanité. Donc il y a des moments où je montre ma mère dans sa faiblesse et sa fragilité de femme et donc sa difficulté à devenir mère aussi.
Il y a des beaux passages émouvants où on découvre votre maman, voilà, qui prend de l'âge, qui devient un peu plus, du coup, physiquement de plus en plus absente. Et puis, mais c'est beau ce que vous lui racontez. Et puis à un moment donné, il y a son odeur, son parfum que vous racontez, qui est pareil, tout aussi beau et agréable à découvrir, hein, de votre maman.
Cette particularité de l'odeur, du parfum, ou après on utilise le mot qu'on veut, c'est constitutif de ma relation avec elle, parce que c'est toujours dans son magasin, son antre, où il y a toutes ses créations, voilà, il y a cette odeur de laine avec son parfum, les cigarettes et tout ça se mélange, et ça fait une odeur très très particulière, et je suis très attachée à ça, parce que c'est quand je ramène de Bordeaux des objets qu'elle a fait et qu'elle m'offre, quand on déballe ça chez moi à 800 km, eh bien il y a cette odeur qui est tout aussi présente que si ma mère était à côté de moi. Donc c'est vraiment très très important, et c'est une odeur qui persiste même après avoir lavé les habits. On retrouve encore cette particularité de ma mère, en fait.
Et c'est vrai que ça c'est très très beau. Donc on sent à travers donc ce récit les relations que chacun d'entre nous on a avec nos parents, hein, qui sont pas forcément marrants, très difficiles, très complexes. Vous, j'ai presque envie de dire, c'est presque violent ce que vous avez vécu, parce que vous n'avez, j'ai envie de dire, pas connu votre papa, quoi. Et je trouve que c'est assez violent, hein, en général, pour un enfant, quand un père est absent, disparaît, n'existe pas. Et donc il y a tous ces aspects où on peut se reconnaître. C'est pour ça que véritablement je conseille un petit peu ce livre, qui permet un petit peu de se repositionner, de se poser les questions différemment dans notre vie de tous les jours et notre rapport à la famille.
Oui, je me disais aussi, en faisant le choix de le publier, enfin en prenant cette décision, que finalement mon histoire, bon, elle a sa spécificité, mais elle peut renvoyer d'autres lecteurs à leur propre spécificité familiale, et que quand on voit ainsi une personne qui écrit, on peut dire, ah ben moi aussi j'ai vécu ça, ça peut nous renvoyer à nous-mêmes aussi, ça peut nous consoler quelque part. Donc c'est important qu'il y ait des échanges sur ces difficultés familiales. Le livre est un support, ce livre-là ou d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres livres qui dévoilent ainsi des secrets de famille, des difficultés relationnelles. C'est important d'en parler, c'est un bon support de communication pour que chacun aille mieux.
Comme quoi, hein, véritablement, comme quoi les relations familiales ne sont pas aussi simples pour tout le monde. Hein.
Non, je me suis rendu compte de la part de lecteurs que je ne connais pas forcément personnellement, qui m'ont dit « Ah, dans ce livre, certains passages, bon, ils ne m'ont pas dit lesquels, certains passages m'ont fait penser à ma propre histoire et c'est très bien, moi, je trouve un petit peu cette parole qui se libère sur les difficultés familiales. »
Il y a une belle ouverture, une compréhension et comme je disais, donc, on se repose les questions différemment. Parce que souvent, on a du mal à avoir du recul, on est dedans et on n'a plus le recul nécessaire. Donc, véritablement, je vous conseille de vous procurer assez vite donc, Les Ombres du Nombre, donc de Bénédicte d'Artigalong. Je me concentre pour bien prononcer. Donc voilà, ce récit à vite vous procurer donc, à la Librairie du Mot, par exemple, à Chalon, en Champagne. 18h30, donc, restez avec nous, on va poursuivre justement l'interview avec Bénédicte d'Artigalong pour son récit de l'histoire vraie autour de son père, Les Ombres du Nombre. Et puis, bien avant cela, la minute emploi. Et oui, les services de l'emploi, surtout en cette période difficile et sanitaire. On vous donne toutes les astuces dans notre chronique. Mais avant cela, l'actualité locale de ce mardi 2 mars, présentée par Gérald Gaillet.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur RCF Cœur de Champagne. Merci de nous rejoindre dans ce journal local.
RCF Cœur de Champagne, le journal Gérald Gaillet.
Ce samedi après-midi, notre confrère journaliste photographe de presse, Christian Lantenois, du journal L'Union Lardonnais, a été sauvagement agressé à Reims. Hospitalisé dans un état critique, mais stable, le procureur de la République de Reims a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Un appel à témoins est lancé pour toute personne se trouvant ce samedi entre 15h et 15h10 près de la médiathèque Croix-Rouge à Reims. Le contact 24h sur 24 est le 03 26 61 44 00. La rédaction de RCF Cœur de Champagne souhaite à Christian Lantenois un prompt rétablissement et apporte son soutien à sa famille et à ses collègues de la rédaction de l'Union Lardonnais. Ici commence la Marne, des plaques pour lutter contre la pollution des eaux à Chalon-en-Champagne. Une première dans la Marne, dans le cadre de l'action pour lutter contre la pollution des eaux, la jeune chambre économique Chalon-Aglo a inauguré près de 50 plaques préventives avec l'inscription « Ici commence la Marne » ce samedi 27 février. En présence de la députée de la Marne, Lise Magnier, le vice-président de l'agglomération de Chalon, Pascal Lefort, et du maire de Chalon-en-Champagne, Benoît Apparu. Explication avec les deux directeurs de commission de la JCE Chalon-Aglo, Aude Albert et François Breton.
Alors la genèse de cette action est venue d'une visite au centre de la station d'épuration de Chalon, où on a pu voir la qualité de l'eau, et donc l'importance de préserver la qualité de cette eau pour tous les Chalonnais.
Pourquoi mégot ?
Mégot parce qu'on sait qu'un mégot de cigarette jetée pollue 500 litres d'eau, ce qui est une quantité énorme. Et du coup, on a parlé aussi avec un membre de la jeune chambre qui jetait ses mégots dans les avaloirs en pensant bien faire, en pensant se dire bah, c'est bien comme ça, ça ne traîne pas par terre. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était extrêmement polluant et qu'il fallait mieux le jeter dans une poubelle. Donc on a voulu sensibiliser les gens à ce phénomène.
Vous avez quelques chiffres, justement, quelques données, quelques informations justement sur la pollution du mégot dans l'eau ?
Alors c'est 2300 substances toxiques qui sont déversées. Il faut 2 à 3 ans pour que l'ensemble des substances soient délivrées dans l'eau. C'est 500 litres d'eau polluée par un seul mégot.
Et quel est le message du coup pour donc la jeune chambre économique, mais pour ici les habitants de Chalon et de l'agglomération de Chalon ?
Ne rien jeter dans les avaloirs. Les avaloirs en fait sont directement reliés aux eaux pluviales, donc ils ne vont pas forcément être traités directement. Donc c'est directement reversé dans les milieux naturels. Donc c'est quelque chose d'important. Pas de chewing-gum, pas de cigarettes, pas de papier, rien du tout qui pourrait polluer notre eau, vu que c'est quand même une ressource précieuse.
Oui, alors donc mégot, c'est une action dans le cadre d'une volonté de la jeune chambre économique de travailler sur un sujet en lien avec le développement durable, et aussi suite à un constat, notamment lors du World Clean Up Day, une ancienne action de la jeune chambre, du nombre de mégots qui peuvent être rejetés dans la nature et aussi dans les avaloirs, le réseau d'eau pluviale notamment, et étant conscient donc de la pollution que ça pouvait générer, on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à faire au niveau de la jeune chambre pour essayer d'améliorer la situation et de faire prendre conscience aux gens de la pollution que cela peut générer.
Il y a combien de plaques Où est-ce qu'on peut les retrouver?
Alors, une cinquantaine de plaques ont été posées sur l'ensemble du centre-ville de Châlons-en-Champagne. Donc, les sites ont été validés avec les élus et les services techniques. La plaque a elle-même été validée aussi avec les architectes des bâtiments de France. Et donc, elle s'insère au niveau d'une cinquantaine d'avaloirs qui sont répartis donc sur une zone assez restreinte. Le but étant que le message soit aussi relativement répétitif pour qu'il s'imprègne dans la tête des gens.
Bien évidemment, la jeune chambre économique n'était pas toute seule. Plusieurs partenaires ont travaillé et quelles ont été un peu leurs missions à chacun?
Alors, partenaires financiers avant tout, donc je pense à la ville de Châlons-en-Champagne, effectivement, le Fonds départemental de la vie associative, et nous avons aussi eu un prix de la région Grand Est dans le cadre du plan santé région environnement. Le Rotary de Châlons-en-Champagne nous a donné le prix Servir en 2020. Et ensuite, nous avons Nord-Est TP et Colas, deux entreprises du BTP du territoire chalonnais, qui nous ont offert deux journées de mécénat pour poser ces plaques fabriquées par une métallerie locale, à savoir la métallerie Appert de Saint-Martin-sur-le-Pré.
Pour suivre l'action Mégo, rendez-vous sur la page Facebook JCE Chalon Agglo. Un concours photo est proposé sur la thématique, un panier gourmand et un kit de produits pour commencer l'aventure zéro déchet. Alors que l'INSEE nous indique des baisses importantes d'habitants sur les villes de Vitry-le-François et de Saint-Dizier, nous avons rencontré un agent immobilier Vitria, Mathieu Mahou. Il est responsable de l'agence Christophe Mahou Immobilier à Vitry-le-François. Mathieu Mahou, bonjour.
Bonjour Gérald.
Vous êtes responsable de l'agence Christophe Mahou Immobilier. Quand on parle d'immobilier, eh bien, comment ça se passe actuellement dans le secteur, puisque on parle de beaucoup d'habitants qui quittent à la fois Vitry, Saint-Dizier, le département. Est-ce que c'est vrai?
Effectivement, nous sommes présents sur le secteur de Vitry-le-François et Saint-Dizier, donc on est dans le vif du sujet. On peut distinguer des habitants qui quittent le secteur. Après, il faut en établir la cause. Quitter le secteur Vitria pour partir au soleil, etc., je pense que c'est pas forcément une vérité aujourd'hui. Pour Vitry-le-François, par exemple, on a beaucoup de citadins qui veulent aller dans des campagnes, surtout dans des climats actuels de Covid.
La campagne proche?
C'est notre constat. On a beaucoup de citadins qui désirent un coin de verdure, de la campagne proche, on peut citer des communes comme Frignicourt, Blacy, des petites choses comme ça, mais c'est pas pour autant que ce sont des gens qui quittent notre territoire, en tout cas c'est notre analyse.
Sur le plan immobilier, les gens achètent ou louent?
Il y a vraiment un très fort marché pour les deux. Il y a des gens qui sont forcés de louer et il y a un marché locatif sur Vitry très important qui n'est pas à négliger. D'ailleurs, pour les éventuels investisseurs, c'est vrai que le marché des locations marche très bien. On a affaire à une clientèle tout à fait correcte parce que Vitry reste quand même une ville attrayante malgré tout. Et concernant l'achat, il y a une dynamique. Nous, effectivement, connaissant le contexte du Covid qui économiquement est compliqué, les transactions immobilières se portent plutôt bien. Les gens conservent leurs projets et les reprennent en tout cas.
Ce qui veut dire que pendant le Covid, des gens déménagent.
Les gens déménagent. Alors, est-ce qu'ils se sont rendus compte par le confinement qu'ils étaient peut-être un peu à l'étroit, peut-être un autre secteur? Tiens, la ville, j'en ai marre, j'irais bien me reposer du côté du lac du Der, peut-être.
Ça veut dire que, en fait, les habitants qu'on perd à Vitry, on les récupère dans les communes alentours.
En tout cas, c'est mon avis. Je pense que les habitants de Vitry, intramuros entre guillemets, je pense que aujourd'hui, on ne les perd pas définitivement. Ce sont des gens qui partent relativement proches de Vitry.
Et c'est pareil pour Saint-Dizier?
Saint-Dizier, un petit peu le même constat. Saint-Dizier, un peu particulier parce qu'on a la base aérienne qui quand même draine une clientèle qui n'est pas à négliger non plus. Mais même constat, à mon sens, pour Saint-Dizier. Surtout que ce sont deux villes, Vitry-Saint-Dizier, qui gravitent autour du lac du Der.
Est-ce que les militaires changent régulièrement de base?
Ah, effectivement, un militaire en général, quand il n'est plus de Saint-Dizier, c'est qu'il part pour une autre base, donc pour le coup très loin de Saint-Dizier en règle générale.
Les militaires, c'est pareil, c'est location ou c'est plutôt achat?
On a vraiment de tout. Disons qu'on va avoir, je pense, concernant les militaires, un profil où la personne va savoir dès le départ qu'il ne va pas être là pour une durée très longue, donc forcément ce profil-là va plutôt aller sur de la location. Mais on a des militaires quand même qui achètent beaucoup. Économiquement, c'est vrai que c'est une clientèle qu'on voit régulièrement revenir sur de l'achat, mais sur la location aussi.
Conclusion, quand on regarde un peu les indices INSEE avec des départs sur Vitry, des départs sur Saint-Dizier dans le département de la Marne ou de la Haute-Marne, ils sont pas partis très loin.
Écoutez, effectivement, en conclusion, je pense que nos Vitria le restent un petit peu dans l'âme et que quand un Vitria quitte la ville, ce n'est pas pour partir, c'est vraiment très loin.
Mathieu Mahou, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de Christophe Mahou Immobilier à Vitry-le-François.
Merci beaucoup Gérald.
C'était Mathieu Mahou, responsable de l'agence Christophe Mahou Immobilier à Vitry-le-François. L'intégralité de l'entretien a été écoutée dans la matinale de samedi ou sur podcast sur rcf.fr. Ce vendredi 5 mars à 16h aura lieu la prière pour les vocations à la basilique Notre-Dame de l'Épine. Elle sera animée par l'Action catholique des femmes.
Moi, François, j'ai parlé aux oiseaux et j'ai admiré la création.
Moi, Bernadette, j'ai vu la Sainte Vierge à Lourdes.
Moi, Jean, j'ai accueilli et éduqué des orphelins.
Moi, François-Xavier, j'ai apporté l'Évangile jusqu'au bout du monde.
Moi, Thérésa, j'ai soigné des lépreux à Calcutta.
Moi, Dominique, j'ai fondé un grand ordre religieux.
Moi aussi, comme Sainte Thérèse, Saint François et tous les autres, je veux faire grandir l'Église. Alors je donne au denier.
L'Église a besoin de vous. Faites un don sur denier.com.
L'homme irrémédiable, rends-nous la joie de ton salut, est le sujet abordé cette année par les conférences de carême de Notre-Dame de Paris. Ce dimanche, depuis l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, le père Guillaume de Montière vous propose de réfléchir sur le thème « L'homme délivré, sauvé de quoi ?» Les conférences de carême 2021 sont à écouter ce dimanche à 21h sur RCF et à la demande sur l'application RCF.
Le 18-19 sur RCF.
On est là pour vous, les services de l'emploi depuis chez vous, avec Pôle emploi.
Vous êtes en ce moment chez vous. Pourquoi ne pas en profiter pour vous informer sur un métier, un secteur, créer ou améliorer votre CV, rechercher un emploi ou encore vous former à distance grâce aux services en ligne de Pôle emploi. Vous pouvez par exemple vous informer sur vos droits en matière de formation en activant votre compte personnel de formation, le CPF, un compte créé pour tous les salariés et demandeurs d'emploi de plus de 16 ans qui pourront l'utiliser tout au long de leur vie active. Ainsi, si vous avez travaillé avant d'être demandeur d'emploi, vous avez donc acquis des droits à la formation. Avec le CPF, vous pouvez financer totalement ou en partie une formation pour réaliser votre projet professionnel. Vous accompagner dans une création ou reprise d'entreprise, faire un bilan de compétences ou encore préparer votre permis de conduire. Pour accéder à votre compte personnel de formation, rien de plus simple. Inscrivez-vous et activez votre CPF sur le site moncompteformation.gouv.fr ou sur l'application Mon Compte Formation. Vous pourrez alors connaître le montant de votre compte et découvrir toutes les formations pouvant être financées par votre CPF.
Tous les services en ligne de Pôle emploi sont à votre disposition au quotidien. Rendez-vous sur l'Emploi Store, emploi-store.fr et sur le site pôle-emploi.fr. Pôle emploi est là pour vous.
Le 18-19 sur RCF.
18h42 dans le magazine régional. Notre invité de ce soir, c'est Bénédicte Artitalong pour son nouveau récit autour du décès de son père. Elle retrace un peu cette histoire et le récit s'intitule « Les ombres du nombre ». Quelle était un petit peu, vous, votre place dans ce clan familial hein? Parce qu'on rappelle, il y a toute famille, il y a le frère, tout ça, il y a du monde hein, autour de vous. Quelle est un petit peu votre place, votre position, votre statut au sein de cette famille?
Mon statut, c'était un petit peu de finalement de ne pas être à ma place. J'ai toujours eu cette impression dans cette famille de ne pas être à ma place. Donc j'ai essayé de le formuler un petit peu. C'est-à-dire que je suis née, je n'ai pas été prise en charge par mes parents, donc j'ai été prise en charge par mes grands-parents, donc quelque part je n'étais pas à ma place, je dormais pas dans le bon lit, dans une maison qui comportait deux étages avec des zones très très particulières pour les couples, donc j'étais pas tellement dans le bon étage. Et puis en permanence j'ai menti quand j'étais enfant, quand j'étais collégienne, sur mes parents, sur leur travail, leur personnalité. Donc je n'étais pas non plus à ma place puisque je mentais, je me racontais une histoire. Ouais. Ça m'a beaucoup aidée par contre. C'était difficile, mais en même temps ça ne m'a pas non plus traumatisée. Mais ça m'a bien aidée après, quand j'étais étudiante, à être très motivée dans mes études et dans mes choix de vie pour conquérir ma place, pour vraiment après dans ma vie d'adulte être à ma place. Et une fois que j'ai commencé mes études, je n'ai plus eu cette impression de ne pas être à ma place. de pas être la bonne personne ou autre. Et petit à petit, je me suis vraiment installée dans la vie. Et je ne dis pas qu'après je n'ai fait que des bons choix et que tout était rose et facile. Je ne dis pas ça. Mais au moins, j'étais moi-même et j'avais acquis ça. J'avais acquis cette place, ma place.
Il y a cet aspect où vous avez été un petit peu un personnage. Vous avez créé un personnage pour plaire et que ça passe auprès de tout le monde dans la famille. Et puis, en fin de compte, à côté, vous avez vraiment créé. Devenue la femme que vous êtes, Bénédicte que vous êtes, mais la réelle, quoi, la vraie. Et pour abandonner ce personnage que vous avez créé pour plaire, quoi, à la famille.
Pour plaire, c'était surtout pour faciliter les choses, parce que la structure familiale était complexe. Je ne connais pas toutes les raisons qui ont fait que ça s'est mis un petit peu à partir dans un fonctionnement qui n'était pas du tout normal et pas du tout positif ou autre. Donc ça, je ne maîtrise pas tout. Il fallait que ma mère reste dans son statut de hippie un petit peu marginal pour que chacun puisse évoluer confortablement. Donc on a bien institué à chacun des positionnements. Donc mes grands-parents, ils s'occupaient de moi, c'était un petit peu les patriarches. Ma mère, elle endossait le rôle de justement la mauvaise mère ou la non-mère qui s'occupait de son travail et puis c'était tout. Donc elle, il fallait qu'elle reste à sa place. Mon père, il a sans doute souffert d'être chassé, effacé, mis de côté, mais lui, il fallait qu'il reste aussi dans son statut un petit peu de parasite familial. Moi, il fallait pas que je pose de problème. En fait, c'était surtout la problématique de la gêne, vous voyez.
Oui. Oui.
Pas de complications, donc pas de vagues.
Voilà, si on peut tout lisser, c'est parfait.
C'est installé.
Ouais. Et que vous avez essayé donc aujourd'hui de percer à travers ce récit.
Oui, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Une fois que cet homme est mort, on a eu un peu de compassion pour moi, mais finalement en quelques phrases. Et je ne voulais pas qu'on en reste là. Ça me paraissait un petit peu facile. Encore une fois à sa mort, d'oublier, de tirer le rideau et puis de passer vite à autre chose. Donc j'ai préféré jeter un pavé dans la mare ça rejaillit aussi après sur des lecteurs qui ne me connaissent pas. Mais c'est très bien si ça peut leur faire éprouver des émotions ou leur rappeler des éléments de leur propre vie.
La difficulté quand on a des relations avec des parents, surtout quand il y a un père... En fin de compte, qui est vivant, mais qu'on a décidé, j'ai envie de dire, de faire disparaître. Ce qui est terrible, tout ça. En tout cas, on sent un petit peu votre colère, du coup, à travers votre maman, que vous ayez un petit peu, à des moments, de faire disparaître dans votre récit, et puis de redonner vie à votre papa. Il y a cet effet de dualité, quoi, entre vos deux parents.
Oui, j'ai deux parents. Voilà, je l'ai bien compris. Petit à petit, en devenant adulte et en devenant mère moi-même, un enfant a deux parents et quel qu'il soit, on leur doit aussi, même s'il y a des difficultés relationnelles ou des difficultés dans l'histoire, mais on leur doit cette part de reconnaissance. Et comme mes parents, on leur avait enlevé cette part de reconnaissance dans le quotidien, moi j'ai voulu quand même, j'ai voulu remettre les choses à leur place. Et donc mes parents à leur place, pour ce qu'ils sont. Après, chacun a le droit d'exprimer ses différences. Et puis finalement, moi aussi, comme ça, je suis à ma place et je l'exprime. Et je n'ai pas de retenue par rapport à cette histoire.
Le vôtre entourage, justement, est-ce qu'ils ont lu le livre et qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai parlé de ce livre aux personnes de ma famille. Donc, la lecture est en cours, on va dire. Le livre est sorti il y a peu de temps. Donc, il y en a qui l'ont lu, d'autres qui sont en train de le lire ou qui vont le lire bientôt. Alors, je n'ai pas eu des retours de tout le monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une question qui revient chaque fois, c'est « Est-ce que ta mère est au courant ?»
Ah, est-ce que votre maman est au courant ?
Oui, pour l'instant non, ma mère n'est pas au courant. Je ne sais pas si je vais lui en parler. Je n'ai pas encore décidé parce qu'elle a un caractère assez fluctuant, donc elle est très incontrôlable.
On le lit dans les livres.
Voilà, je ne sais pas comment elle réagirait. Alors je sais que la prochaine fois que je la verrai, je prendrai le livre dans mon sac et puis en fonction de l'humeur, en fonction de l'ambiance. Il n'est pas impossible que je le sorte et que je lui montre. Peut-être qu'elle aura envie de le lire. Oui. Bon, en tout cas, je lui rappellerai que c'est une œuvre quand même. Bon, ce n'est pas un journal intime brut que j'ai publié. Il y a un travail pour que ça soit une œuvre, quoi. Oui. Après, la qualité, je ne la maîtrise pas, mais j'ai voulu faire en sorte que ça soit lisible. Donc, j'ai un petit peu modifié certains aspects. Je lui dirai qu'elle ne se fie pas aux premières pages qui dressent d'elle un portrait difficile. J'essaierai de lui présenter les choses pour qu'elle ne pense pas que je me venge d'elle. Bien au contraire, je cherche à montrer par ce livre l'envie de réconciliation. Donc, il faudra que je sache lui présenter de manière positive.
Je pense que vous trouverez les mots et les bons gestes pour lui dire. C'est un livre, je rappelle, Les Ombres du Nom, donc de Bénédicte d'Artigalong. Donc, c'est aux éditions Nombre 7, édition. C'est un récit donc qui est très bien écrit, très facile à lire, c'est très allégé, c'est très frais quand même, malgré l'histoire dure, ça reste frais à lire, c'est très agréable. Pour ça, véritablement, il faut vous le procurer. On poursuit l'interview, mais avant cela, une petite pause musicale avec Clara Luciani, ce joli titre, Ma sœur.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi, et chaque coup que tu reçois, ricoche et me frappe deux fois.
Et vous, Bénédicte, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, justement, à nos auditeurs pour se procurer les raisons véritablement de le lire et de l'avoir ?
Les raisons, peut-être la curiosité, peut-être que d'écouter comme ça en parler, ça va susciter une certaine curiosité de la part des lecteurs, enfin des auditeurs avant, des auditeurs de votre émission. Peut-être qu'ils vont se dire, mais jusqu'où est-elle allée
justement, en plus, on a
de ces difficultés familiales, et peut-être que cette curiosité va donner envie de lire. Moi, j'autorise. Je pense pas qu'il y ait vraiment de voyeurisme. J'autorise très bien, et j'invite les personnes à m'accompagner en le lisant, parce que voilà, comme ça on peut libérer la parole sur nos difficultés de vie.
Exactement. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que j'étais assez prudent quand je disais voyeurisme, parce que j'ai du mal à utiliser ce mot-là.
Oui, oui.
Parce qu'il y a cet effet, on s'y attend, mais qui n'y arrive pas forcément. Hein. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Mais bien évidemment, il y a toujours quand même une certaine distance, un certain respect. C'est pas malgré la violence qu'on peut dire que vous avez plutôt comme vécu hein, par rapport à tout ça. Il y a rien de violent dans les mots, dans les propos. On sent, on devine quand même la dureté que vous avez vécue, mais ça ne l'est pas dans les mots, dans l'écriture, dans le dialogue. Hein. Il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment léger, et comme on le disait tout à l'heure, c'est même très très beau hein, parfois, hein. C'est très joli à écouter et à vivre. Hein.
Mais ce n'est pas un livre que j'ai écrit pour me libérer de traumatismes ou de choses comme ça. Je ne l'ai pas fait pour moi, ce livre. Je l'ai fait vraiment pour la figure de Gérard, donc mon père.
Oui.
Et donc, j'avais de la distance. J'avais des émotions à transmettre, mais en même temps de la distance. Donc c'est un livre qui est à la fois très personnel, mais en même temps, comme vous l'avez dit, bon voilà, il y a de l'objectivité. C'est C'est pour ça que les lecteurs ne doivent pas être gênés en l'ouvrant et en prenant un petit peu le cheminement avec moi, en m'accompagnant dans ce passé et dans le présent, parce que je n'ai pas voulu mettre les personnes mal à l'aise.
Oui.
Et au contraire, j'ai voulu redonner de la densité et être dans une démarche de réconciliation. Donc je pense que il n'y a pas de gêne à avoir.
Ouais, ouais, je rassure son auditeur, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des effets de sensation, mais en fin de compte, c'est vrai. Il n'y a pas de gêne du tout à avoir. Je vous propose de faire une petite expérience de pensée, Bénédicte. Ça
oui.
vous intéresse?
Oui, je ne sais pas si ça m'intéresse. Je vous dirai
si...
quand vous m'aurez proposé.
Ouais, bah, je vous explique. Voilà. Si votre papa avait la capacité d'avoir votre livre, de le lire, vous pensez qu'il vous dirait quoi?
Je pense qu'il ne dirait rien.
Ah oui, silence.
Je pense qu'il ne dirait rien parce que c'était quelqu'un de qui psychologiquement était très très perturbé et avec lequel on avait vraiment du mal à, même si on avait envie, hein, on avait du mal à communiquer avec lui simplement. Donc c'est quelqu'un qui intériorisait beaucoup de choses, qui transformait beaucoup d'émotions en je ne saurais pas comment dire, mais en troubles, pas toujours positifs. Et je pense que ces émotions à la lecture du livre, il ne pourrait pas les formuler.
D'accord.
Donc je pense que en revanche, il ne me dirait rien, mais je pense qu'il pourrait me regarder avec ses yeux myopes, toujours un peu mystérieux, puisqu'on ne savait pas ce qu'il pouvait penser quand il vous regardait. Donc je pense qu'il aurait son expression de visage spécifique, donc ses yeux marrons là qui me regarderaient avec quelque chose d'assez indéchiffrable, et puis peut-être un petit sourire, un demi-sourire qu'il avait toujours et qui montrait ce que moi j'ai interprété comme sa profondeur d'esprit, sa profondeur d'âme en fait.
D'accord, bon, on va rester justement sur cette belle profondeur d'âme. Donc on rappelle bien, procurez-vous très vite donc Les Ombres du Nombre de Bénédicte d'Artigalong aux éditions Nombre 7 éditions, que vous pouvez trouver très facilement en ligne, et puis en plus à la librairie du mot ici par exemple à Châlons-Champagne et dans les autres librairies donc de la Marne. Est-ce qu'on a à peu près tout dit justement sur ce récit, hein? Parce qu'il ne faut pas tout dire, hein? Le plus important c'est de le lire, hein? C'est une belle histoire à découvrir, hein? Mais on a à peu près tout dit, vous pensez?
Oui, je ne vois rien de. Vos questions ont été très complètes.
Ouais, après, je ne vais pas trop rentrer vraiment dans tout le bouquin, parce que je veux vraiment laisser la place à nos lecteurs, quoi.
Bien
c'est ça
sûr,
le principal.
Évident, le plus important, c'est de susciter une petite curiosité.
Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Donc, née du côté de Bordeaux, mais elle est d'adoption à Châlons-Champagne, donc c'est du local. Le préciser, le valoriser aussi, notre petit local. Donc n'hésitez pas à encourager tous nos auteurs et donc autrices également à les soutenir en ayant donc leurs romans, leurs récits, leurs bouquins, leurs poésies. Ils sont à notre disposition. En tout cas, merci beaucoup.
Je vous en prie.
On se dit à très très vite, j'espère, pour un nouveau roman. Qui sait la prochaine fois?
Oui, peut-être, on verra.
Il n'y a rien pour l'instant sur la table, sur le papier?
Ah, qui sait, je ne sais pas.
Ouais, c'est encore en réflexion.
Oui, déjà, non, je le laisse vivre. Il faut que ce livre trouve ses lecteurs. Donc, mon énergie, elle est vraiment consacrée à ce livre. J'ai pas fini d'en parler. J'ai pas fini de recueillir des impressions de lecteurs. Donc, ça fait partie du livre, hein, qu'il soit lu et puis qu'on prenne le temps de le faire exister. Donc, je tiens vraiment à prendre ce temps-là. Et puis, quand le temps de ce livre sera terminé, eh bien, oui. Ce sera le temps peut-être d'un autre ou pas, on verra, mais...
En tout cas, vous le suivez.
Je ne veux pas bâcler j'en profite.
Ouais, allez-y.
Je profite de ce livre en le laissant lire au lecteur.
En tout cas, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Profiter, apprécier, j'ai envie de dire, c'est même le mot d'ordre qu'il faut essayer de faire en ces temps difficiles. Donc n'hésitez pas. En plus, véritablement, on se retrouve, parce que géographiquement, nous sommes dans la Marne, on reconnaît plein d'endroits, et ça c'est vraiment chouette et agréable. C'est pour ça qu'il faut vite la voir. Et puis, petite question très difficile que j'ai envie de vous poser, là, juste avant de partir. Champagne ou Bordeaux?
Les deux.
Ah.
Les deux, pas en même temps, mais je suis très chanceuse d'être née dans la région du Bordeaux et de faire ma deuxième partie de vie, en fait, ma partie adulte dans le Champagne, et donc les deux.
D'accord, voilà. Ok, bah, ce sera votre réponse. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation et donc à très vite à l'antenne d'RCF pour découvrir d'autres créations de votre part.
Oui, ben merci beaucoup.
Le temps pour demain, mercredi 3 mars, un temps quasiment identique à celui d'aujourd'hui, si ce n'est que les nuages seront un peu plus présents. Les températures demain matin, donc on sera aux alentours des 9 degrés, donc plutôt frais, ça va se réchauffer légèrement, on montera jusqu'à 14-15 degrés dans l'après-midi. Demain, le lever du soleil, ce sera à 7h18, il se couchera à 18h29 et nous fêterons la Saint-Guénolé. Nous arrivons à la fin de ce magazine, le 18-19 en Champagne. Merci d'avoir suivi, merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Demain, l'invité donc du 18-19, il s'agira donc de M. Beckrich pour nous parler donc de la formation BUT, hein, la nouvelle formation bachelor pour les IUT. Les inscriptions terminent donc le 11 mars. Petit rappel donc demain dans notre invité du 18-19. Et quant à moi, je vous dis à tout à l'heure, 19h30, pour le prêt de chez vous.